France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h21. ZAN, Z-A-N, trois petites lettres très clivantes. La loi zéro artificialisation nette est un volet important de la politique environnementale de la France. Le but est de ne plus bétoniser le pays d'ici à 2050. Mais certains trouvent que ça va trop vite, d'où cette proposition de loi examinée aujourd'hui au Sénat. Pour assouplir, certains diront détricoter, le texte initial. Pour bien comprendre les enjeux, je reçois ce matin une spécialiste du droit des sols. Bonjour Maïlys Desrousseaux.
Bonjour.
Vous êtes enseignante-chercheuse à l'École d'urbanisme de Paris. Alors je le disais, le but ultime de cette loi ZAN, c'est qu'en 2050, tout ce qui sera pris sur la nature doit être rendu. Ça veut dire que si on bétonne, on compense par des mesures de renaturation, c'est bien ça?
Tout à fait.
Mais alors qu'est-ce qui change dans la nouvelle proposition de loi?
La nouvelle proposition de loi, elle change deux choses essentielles. La première, c'est qu'elle vient modifier une avancée qui avait été faite en 2021, qui était d'établir un lien entre l'artificialisation et la destruction des sols. Parce que quand on construit un projet d'aménagement, une maison individuelle, une infrastructure, on détruit un milieu qui nous sert énormément à nous en tant qu'êtres humains.
Et le deuxième changement?
Le deuxième changement, c'est que la loi climat et résilience, elle était venue apporter une obligation de résultat à la limitation de cette artificialisation en expliquant que c'était 50% de réduction de construction par rapport à la construction qui avait été faite entre 2021 et 2031. Mmh. Et là, avec la proposition de loi, on n'a plus cette échéance à l'horizon 2031.
Mais à 2034. En fait, on décale l'objectif intermédiaire.
Même plus, parce qu'on n'a même plus cette obligation de s'arrêter, mais on est plutôt sur une trajectoire de réduction.
Mais l'objectif final 2050, zéro artificialisation nette, ça, il est maintenu.
Il est maintenu pour le moment.
Alors, cette loi, je l'ai dit, elle suscite l'opposition de nombreuses personnes en France, notamment des élus locaux. Le sujet a même occupé 2 heures du dernier congrès des maires de France. Ces élus locaux, ils disent, ça vient d'en haut. Ce qui a été fait au Parlement, ce qui a été décidé, cette loi finalement, elle ne s'adapte pas à nos spécificités locales. De quoi s'agit-il exactement ?
Il s'agit en fait d'une limitation chiffrée et donc nécessairement on change tout le paradigme habituel qu'on avait eu sur les lois précédentes qui venaient limiter l'étalement urbain mais qui ne posaient que des obligations de moyens. Donc là aujourd'hui avec cette limite stricte, ça a forcé différents échelons de décision, donc que ce soit à l'échelle des régions, des communautés de communes et des communes en elles-mêmes, de discuter pour en fait se partager entre guillemets une enveloppe de consommation d'espace et parfois certains élus peuvent se retrouver ou s'estimer lésés dans ce partage, et c'est là que ça crisme. Mais des élus, on en entend aussi beaucoup, qui se sont mis dans la dynamique et qui ont mis à jour leurs documents d'urbanisme.
Ouais, et par contre, tous ces élus, là qu'ils soient pour ou contre, ils ont la même problématique, c'est que d'un côté, il y a les objectifs environnementaux, et puis de l'autre, il y a les besoins de construction, parce qu'on a une crise du logement et qu'il faut réindustrialiser le pays.
Oui.
Et ça, c'est l'équation, en fait. C'est ça.
Et dans le même temps, quand on regarde des notes d'études de France Stratégie, par exemple, on s'aperçoit qu'en France, il y a 20% d'artificialisation qui a été faite, qui était jugée non efficace, c'est-à-dire qui n'avait entraîné ni dynamique démographique, ni dynamique économique. Donc ça montre qu'on a une marge de manœuvre quand même importante pour arrêter d'artificialiser tout en continuant à se développer.
L'ampleur de la bétonisation aujourd'hui, elle est de combien? J'ai regardé les derniers chiffres sur la décennie 2010-2020. C'était, pour dire simplement les choses, équivalent de 5 terrains de foot par heure. Aujourd'hui, en 2025, on est à peu près toujours sur ce rythme-là?
On est sur un rythme encore assez stable, en dépit de l'adoption de la loi en 2021. Mais on peut anticiper que d'ici 2-3 ans, si l'objectif de réduction est maintenu, là, on va voir la baisse s'amorcer, puisqu'on paye aujourd'hui les coûts partis.
On est obligé de détruire la nature? On peut pas réhabiliter des friches, des terrains qui sont déjà bétonisés?
On peut, absolument. Ça nous fait rentrer dans une logique économique différente.
Ça coûte plus cher.
Ça coûte plus cher. En même temps, si on prenait en compte, lorsqu'on artificialise une parcelle, la valeur de la destruction que l'on entraîne, parce que le sol, ça rend énormément de services écosystémiques. Ça participe au changement climatique, ça abrite de la biodiversité, ça participe à la lutte contre les inondations.
Et donc, l'eau s'infiltre beaucoup plus facilement dans les sols.
Absolument. Donc tout ça, ce sont des choses qui coûtent cher, in fine, en aménagement post-destruction.
Mais donc financièrement, si on regarde juste le côté économique, ça coûte plus cher de réhabiliter une friche, pardon, que de détruire la nature.
Ça coûte plus cher de réhabiliter une friche aujourd'hui, Surtout parce que...
C'est combien, par exemple? On a des chiffres sur le mètre carré, ça coûte combien?
Alors, il y a des chiffres, je ne les ai pas en tête, ouais. mais la plupart des friches, en fait, ont des sols pollués. Donc, ce qui coûte beaucoup, c'est la dépollution du sol avant la reconstruction.
Qui doit payer cette dépollution? Est-ce que c'est le porteur de projet? C'est l'ancien propriétaire? C'est qui doit payer, la commune?
Si on appliquait strictement le principe pollueur-payeur, ça serait la personne responsable de la pollution qui devrait prendre en charge cette dépollution. Mais pour faciliter justement la réhabilitation des friches, on peut transférer cette obligation de dépollution à ce qu'on appelle un tiers intéressé, c'est-à-dire un promoteur qui dirait « moi j'y vois un intérêt derrière, donc je dépollue et je construis derrière ». Donc il y a aussi quand même des opérations profitables.
Alors il y a une autre solution qui est évoquée par certains urbanistes, c'est de construire à la verticale. Ça veut dire que c'est fini la maison individuelle qui est le rêve de nombreux Français ?
Il y a beaucoup de maisons individuelles
à rénover.
Il faut densifier
les villes plutôt que de les étaler ?
Il y a beaucoup de maisons individuelles à rénover sur le territoire français. Ce n'est pas la fin de la maison individuelle, c'est la fin d'un étalement inconsidéré.
Merci beaucoup Maïlys Desrousseau. Je rappelle que vous êtes enseignante-chercheuse à l'École d'urbanisme de Paris et juriste spécialiste du droit des sols. Merci d'avoir été en direct sur France Inter.